toute cette problématique.
Je vais traiter donc le dernier cas qui a été proposé, qui est celui de l'obésité et qui est vraiment en contraste avec les précédents, puisqu'a priori, il s'agit d'une maladie liée à la pléthore, qu'il n'y a pas d'agent pathogène unique et qu'il n'y a aucune possibilité thérapeutique pharmacologique significative pour l'instant. Ce que je vais essayer de faire dans cet exposé, c'est vous montrer comment l'obésité a émergé comme problème de santé publique et les débats, et ensuite je discuterai des débats qui ont lieu autour des moyens d'y remédier. Alors, comme bien des sujets en médecine, les choses commencent avec Hippocrate, avec une remarque assez simple qui est la mort subite est plus fréquente chez ceux qui sont naturellement gras que chez le maigre. Donc on est quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Et le vrai progrès dans la conception de l'obésité, et je me demande s'il y a eu beaucoup de progrès depuis, tient à Galien qui fait remarquer dans un premier temps que l'obésité est inutile aux hommes et aux femmes, certaines ouvertures, car elle les rend malades. Mais surtout, Galien va faire une description assez précise, distinguant la rondeur associée à la santé et l'obésité, source d'inconvénients pour la qualité de vie et la santé. Et là, on passe avec Galien à une notion qualitative de la maladie obésité, notion qualitative qui va être perdue pendant de très nombreux siècles, vous allez voir. Et ce qui est intéressant dans la description de Galien, c'est qu'il indique quels sont les principales gènes liés à l'obésité, qui sont l'essoufflement, la transpiration et la gêne sociale. Et il décrit la gêne sociale de manière très concrète, puisque l'obésité empêche d'avoir accès à la table tant elle est importante. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient vraiment une maladie. Donc ça, c'est la description de Galien qui propose une explication physiopathologique qu'on peut discuter et un traitement qui est l'activité physique, la diète et les plantes, quelque chose qui n'évoluera pas pendant 2000 ans. Mais le vrai tournant va être évidemment Quetelet, dont on a évoqué l'importance dans la médecine moderne ce matin, qui décrit, qui cherche à décrire les populations et singulièrement les conscrits écossais, et qui va essayer de trouver une méthode pour exprimer la corpulence en tenant compte de la taille, de la hauteur. Car évidemment, 100 kilos ne veulent pas dire la même chose si on mesure 1m60 ou 1m80. Et donc, Quetelet va inventer un outil qui va être extrêmement important dans la médecine de l'obésité, c'est l'index de masse corporelle, qui est au fond le rapport du poids sur la taille au carré, en kilos et par mètre carré, et qui est, à partir de ces observations, l'index anthropométrique le mieux lié à l'adiposité. Et vous savez qu'autour de Quetelet va être discutée la notion d'homme moyen, et qu'à partir de Quetelet va émerger la notion de maladie quantitative, la maladie étant définie comme une variante quantitative du normal, on quitte le qualitatif pour arriver au quantitatif, et que l'état pathologique est une dégradation d'un état parfait dont on peut décrire la norme. Et donc on va avoir la description d'une valeur de référence de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire de la corpulence, et qui va servir de base à une autre avancée de la médecine moderne, qui est largement générée par les compagnies d'assurance, c'est la notion de facteur de risque. Et l'on va, à partir des années 50-60, voir émerger en santé publique la notion d'obésité à travers la notion de facteur de risque et de coût pour les compagnies d'assurance. Et là, l'obésité va être extrêmement freinée parce qu'on est dans le domaine des maladies cardiovasculaires et que comparé au tabac, à l'hypertension artérielle, à l'hypercholestérolémie, d'une part, et compte tenu d'une fréquence très basse à cette époque-là de l'obésité, c'est un facteur de risque qui va arriver au second plan et qui va être, au fond, assez négligé, d'autant plus qu'il n'y a pas de médicament. Et vous savez que la médecine moderne dépend beaucoup de la présence d'un médicament sur le marché. Et c'est finalement qu'en 1997, que l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, que l'obésité est reconnue comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi ? Parce que l'obésité correspond à la définition de la maladie par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire qu'elle remet en cause le bien-être physique, psychologique et social de l'individu. Alors ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est au fond pourquoi est né cet intérêt de santé publique il y a une dizaine d'années. Je pense qu'il y a trois arguments que je vais passer en revue, l'épidémiologie, les aspects médico-économiques et des aspects physiopathologiques. Aspect épidémiologique, au fond, pendant très longtemps, l'obésité a été considérée comme un avatar de la société nord-américaine et au fond une rançon de la société de consommation. Et vous voyez ici, en 1985, la fréquence de l'obésité aux États-Unis, en bleu ciel ici 5%, en bleu plus foncé 10%. Voilà ce qui se passe 5 ans après, en 90, vous voyez une diffusion de l'obésité. En 2000, vous avez les États qui comportent 20% d'obésité, et en 2005, les États qui comportent 20 à 25% d'obésité. Donc un développement absolument considérable en 20 ans, ce qui est peu, et ce qui a peu à voir sans doute avec la génétique, de l'obésité. Mais ce n'est pas ça qui va alarmer l'OMS. Ce qui va alarmer l'OMS, c'est cette plaque montrée dans une réunion de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, où vous avez ici les pays comme l'Uruguay, le Brésil, la Colombie, le Nicaragua, Haïti, l'Inde. À gauche, le pourcentage de la population atteinte de dénutrition. À droite, le pourcentage de population montrant un excès de masse grasse. Et là, c'est un bouleversement, c'est l'émergence de l'obésité comme problème dans les pays qui connaissent une certaine transition économique. Et on voit à cette période-là, dans un même pays, et singulièrement dans l'Amérique du Sud, des familles où vous avez une personne dénutrie et une personne atteinte d'obésité. Et donc, il y a eu une transition épidémiologique très importante. Donc, premier point qui a alarmé, le fait que c'est une diffusion mondiale, et je pourrais vous montrer des chiffres en Chine, etc. Le deuxième point, c'est que ça atteint les enfants. Et à partir de là, ça cesse d'être une faillite de la volonté, une anomalie de la morale nord-américaine, c'est un problème sérieux. Quelques chiffres, vous avez ici l'évolution de l'obésité aux États-Unis chez les enfants de 6 à 9 ans entre 1970 et 1995. Qu'il s'agisse des États-Unis urbains ou ruraux, c'est la même chose. Et ici, vous avez l'évolution de la fréquence de l'obésité chez les enfants au Brésil en milieu rural et là en milieu urbain. Ici, vous avez l'évolution de l'obésité en Chine rurale entre 90 et 95, et là, en milieu urbain. Ici se situe la France, et je suis désolé, je n'ai pas trouvé les données pour situer l'Allemagne, mais il semble que l'Allemagne soit légèrement au-dessus de la France, mais quand même relativement à proximité. Et donc, cette évolution de la prévalence de l'obésité chez l'enfant va être un signe d'alarme considérable. Pour résumer, tous les pays actuellement, pratiquement tous les pays, connaissent une inflexion de la prévalence de l'obésité sur le modèle suivant. Pendant longtemps, il reste autour d'une prévalence entre 5 et 10%, et à un moment se produit un décrochage. Ce décrochage se produit dans les années 70-80 aux États-Unis, 90-95 en France, 2000 en Chine. Donc la seule question, et une fois que le pays entre dans cette pente-là, la pente est relativement voisine d'un pays à l'autre. Donc la seule question, c'est quand commence le décrochage par rapport au taux de base. En termes d'épidémiologie, je voudrais encore signaler un point qui me paraît assez important. Vous avez ici la prévalence de l'obésité selon les revenus du foyer en France, et vous allez voir ici la prévalence de l'obésité dans les foyers qui gagnent moins de 900 euros par mois. En 1997, cette prévalence était de 12% en France. Et actuellement, en 2006, elle est passée à 18,68%. Donc on est exactement sur la pente des États-Unis. Dans le même temps, vous voyez ici la prévalence dans les foyers qui gagnent plus de 5 300 euros par mois, avec des taux en 1997 qui étaient de 4% et qui ont peu bougé, indiquant que les facteurs économiques sont des facteurs absolument cruciaux dans le développement de l'obésité. Et on pourrait montrer tous ces chiffres dans tous les pays actuellement. L'obésité est une maladie des populations vulnérables dans les pays qui connaissent une transition économique. Paradoxe que l'on constate dans pratiquement tous les pays actuellement. Et au passage, Je signale que donc dans des pays où la prévalence de l'obésité augmente, certaines sous-populations savent résister à l'épidémie par des moyens qu'on pourra discuter tout à l'heure. Juste à titre d'information aussi sur le plan épidémiologique, les chiffres que l'on vous donne au niveau d'un pays doivent être tempérés en fonction des revenus, comme je vous l'ai montré, mais aussi des régions et aussi en fonction d'autres facteurs, en particulier les populations migrantes sont particulièrement affectées. Vous voyez ici une étude qui vient d'être faite, terminée dans le Val-de-Marne, où vous voyez que les populations d'origine asiatique dans le département du Val-de-Marne en France sont passées de 98 à 2005 pour la population des 10-18 ans de 13% à 23% d'obésité et de surpoids, et les populations d'origine, les enfants d'origine maghrébine de 18% à 30%, alors que dans le même temps, les populations originaires primitivement du Val-de-Marne passaient de 19% à 11%. Donc il y a des différences qui sont en train de se produire dans les sociétés qui sont très importantes. Donc ça, c'est le premier argument pour lequel l'obésité a atteint un intérêt de santé publique. Le deuxième point, c'est l'aspect médico-économique, qui est lié au fait que l'obésité a des conséquences sur la santé qui sont importantes. Conséquences cardiovasculaires, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces conséquences. Conséquences en termes de cancer et de maladies respiratoires, ostéo-articulaires, etc. Donc, l'obésité, du fait de son développement épidémique, commence à avoir un impact sur les dépenses de santé et qui devient préoccupant. Je vous signale au passage qu'aux États-Unis, on estime qu'un enfant qui naît actuellement aux États-Unis, un enfant sur trois, si la courbe d'obésité, la prévalence continue à évoluer, sera diabétique. Donc ça aura un coût pour la santé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un certain intérêt pour l'obésité sur le plan médico-économique. À titre d'exemple très concret, une étude de la Caisse nationale d'assurance maladie en France montre que les dépenses médicales totales des personnes obèses adultes, non pas chez les enfants, qui ne coûtent pas cher pour l'instant, sont de 30% supérieures à la population non obèse. Donc ça, ce sont des chiffres très concrets. Et ce qui va préoccuper, à mon avis, ce qui est préoccupant sur le plan médico-économique, c'est qu'au fond, le profil épidémiologique est en train de changer. Vous avez ici, en fonction de l'âge, la prévalence de l'obésité dans une courbe classique. Il y a très peu d'obèses avant l'âge de 20 ans, et puis ensuite ça monte progressivement, et classiquement on a un pic d'obésité, c'est-à-dire 10% par exemple de la population obèse autour de l'âge de 50 ans. Voilà comment les choses ont évolué récemment. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir faire des coupes transversales de la population française tous les 3 ans depuis 10 ans environ. Et vous voyez que au lieu qu'une génération se retrouve là où la précédente se situait, à chaque fois on décale. Et aussi bien les jeunes que les personnes âgées connaissent une augmentation de prévalence de l'obésité. De sorte que l'on peut dire que l'obésité survient plus précocement et que compte tenu du fait que c'est une maladie chronique, elle sera plus grave dans l'avenir chez les gens qui l'ont contactée, entre guillemets, précocement. Et pour concrétiser les choses, actuellement, la population c'est ici les femmes, des femmes qui sont nées en 73, la population en 66, pardon, cette population atteint 10% d'obésité à l'âge de 29-30 ans, alors que leur mère atteignait ce pourcentage à l'âge de 50 ans. Donc il y a une avance de 20 ans dans la prévalence de l'obésité en intergénération. Tout ça n'échappe pas. Évidemment, c'est un gros problème de dépenses publiques, mais ça n'échappe pas évidemment aux économistes qui considèrent que le marché de l'obésité est évidemment un marché émergent extrêmement intéressant. Troisième point, sont les aspects physiopathologiques. Très longtemps, l'obésité a été considérée, je vous ai dit, comme une faillite de la volonté, au fond, une rançon de la société de consommation. Eh bien, les choses ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Et je voudrais entrer avec vous un peu dans l'histoire naturelle de l'obésité. Très schématiquement, et je pense que ça ne vous surprendra pas, avant d'être gros, on n'est pas gros, et donc on rentre dans une phase de prise de poids, et puis il y a un moment où les choses se stabilisent. C'est ce qu'on observe en clinique, c'est la phase de maintien de poids, et ensuite, lorsqu'on intervient sur le plan thérapeutique, Dans la majorité des cas, on a une résistance, une chronicisation, puis une résistance aux interventions thérapeutiques. Et ce qui a beaucoup bougé au cours des dernières années, ce sont la compréhension. Ce qui a bougé, c'est la compréhension des mécanismes physiopathologiques de la maladie. Très schématiquement, au stade initial de la maladie, on a affaire à des déterminants essentiellement comportementaux et environnementaux. Évidemment, les deux grands déterminants connus sont les apports alimentaires excessifs et la sédentarité majorée au cours des dernières années. Ici, notre grille d'analyse doit être la suivante. Il faut voir ce qui revient à l'individu, à son micro-environnement et à la société. Prenons l'excès d'apport alimentaire, l'hyperphagie. D'innombrables mécanismes peuvent être en cause. L'impulsivité alimentaire, l'hyperréactivité aux stimuli alimentaires, l'intolérance à la frustration, qui est un phénomène qui dépasse largement les problèmes alimentaires, le comportement alimentaire comme réponse, solution à des conflits, solution à des situations de stress, et éventuellement, ce qui est plus discuté, les troubles du comportement alimentaire de nature addictive. Donc, on peut avoir un premier niveau d'analyse qui est les désordres du comportement alimentaire au niveau individuel. Au niveau du comportement, là aussi c'est largement documenté, il y a une relation directe, pour prendre un exemple hyper classique, entre nombre d'heures passées devant la télévision et pourcentage de masse grasse. C'est des données qui sont largement documentées. Les choses sont un peu plus compliquées parce que ce n'est pas simplement un comportement alimentaire sédentaire, puisque vous voyez que les gens qui lisent des livres, eux n'ont pas de relation avec le nombre d'heures passées devant des livres. Donc on voit que les choses sont assez... beaucoup plus compliqué que la simple question d'un apport alimentaire et d'un défaut de sédentarité. Donc ça, c'était pour donner quelques exemples au niveau de l'individu. Maintenant, au niveau de son micro-environnement, les causes éventuelles sont les habitudes familiales, les habitudes de groupe, les cantines scolaires, la pression sociale. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est simplement pour vous dire qu'à chaque fois, il va falloir étudier l'individu et son micro-environnement. Et au niveau de la société elle-même, je crois qu'il y a deux grands déterminants qui sont actuellement identifiés. C'est l'évolution du système alimentaire et l'évolution de l'environnement. Dans le système alimentaire, les grandes évolutions ont été dans la production alimentaire, la transformation, la distribution, la disponibilité, les prix et la pression à la consommation. Dans l'environnement, il y a l'évolution de la politique des transports, l'urbanisation, l'évolution du travail, l'évolution du chauffage, ça a l'air de rien, mais chauffer son appartement à 20 degrés, avoir une doudoune ou une polaire l'hiver, etc., diminue considérablement les aspects thermogenèse. Donc si vous ajoutez tous ces facteurs, ça peut jouer. La pollution aussi, j'y reviendrai. Donc ça, ce sont les deux grandes rubriques généralement avancées, et je voudrais, à titre d'exemple, parce que vous avez compris que le sujet est assez vaste, montrer comment... les facteurs environnementaux, comportementaux et biologiques sont en interaction permanente et comment le comportement génère du biologique et le biologique du comportement. Et pourquoi cela devient assez compliqué et pourquoi les gens ont tant de mal à maigrir. Alors je vais prendre deux exemples très simples qui sont la densité calorique de l'alimentation et la taille des portions alimentaires. Et je prendrai comme autre paramètre le prix. Donc la densité calorique de l'alimentation, c'est simple, c'est la quantité de calories qui est présente dans un volume ou dans un poids. Donc évidemment, la densité calorique de frites est très différente de celle de légumes. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'environnement met à disposition de la population des aliments à densité calorique de plus en plus grande. Depuis 20 ans, pour prendre un exemple très simple, la densité calorique... d'un hamburger aux États-Unis a augmenté de 200 calories. C'est-à-dire que les hamburgers contiennent 200 calories de plus. Et puis on peut prendre d'autres exemples, la bière, par l'augmentation de la teneur en alcool, peu importe les détails. Et le point important, c'est que ce qui détermine la densité calorique de l'alimentation ici est le contenu en gras. Le contenu en gras est un système pour améliorer la flaveur, le goût de l'alimentation et sa conservation. On voit donc que les aspects de production, de conservation, déjà déterminent des choses très importantes. Et le problème, le lien qui se fait à ce moment-là avec le biologique, c'est que le système de contrôle des apports alimentaires est fixé essentiellement sur le volume plus que sur la densité. Et si vous voulez, il est, pour faire les choses simples, je vais avoir beaucoup de mal à vous tromper de 300 ou 400 calories avec des carottes râpées. En revanche, avec une barre Mars, ça va être assez simple. Donc vous voyez comment vous pouvez, à partir de facteurs environnementaux, biaiser le système biologique. Il y a des tas d'études qui montrent que si vous augmentez le pourcentage ici de masse, de gras, d'énergie d'origine lipidique dans l'alimentation, eh bien le bilan lipidique se met positif, même si vous trompez sur l'aspect et sur le volume. Et donc on a, vous voyez, un lien extrêmement fort entre facteurs environnementaux et facteurs psychophysiologiques. Et ce lien s'aggrave de facteurs économiques, car il y a une relation inverse entre énergie, densité énergétique et prix de l'aliment. C'est-à-dire qu'il est impossible de se nourrir correctement, avoir une densité calorique correcte de l'alimentation, si on se nourrit quotidiennement avec moins de 2,40 euros par jour, ce qui concerne plusieurs millions de nos concitoyens. Donc il y a, je le répète, toujours ces interactions biologie, environnement et économie. Très rapidement sur la taille des portions, ça va être plus rapide. En 1970, simplement 5 à 10% des portions, excusez-moi, je vais vous donner le nom de marque, McDonald's étaient des super size. Actuellement, c'est aux alentours de 70 à 80%. Et là encore, on peut tromper assez facilement le consommateur. Ça, c'est une expérience qui est très simple. C'est une expérience qui se fait dans les conditions de vie réelles, au cinéma, et on donne des tailles de portions de pop-corn variables et on tire au sort, et on voit ce qui a été consommé à la fin de la séance. Si la portion a été faible, c'est 58 grammes, et si elle a été forte, 85. Donc si vous ajoutez densité calorique et augmentation de la taille des portions, vous êtes dans un système qui devient assez diabolique. Et le problème, c'est que vous savez que la taille des portions réduit le coût. Puisque quand vous passez d'un Coca-Cola super size à un Coca-Cola de small à super size, vous augmentez les calories de 173% et le coût augmente simplement de 58%. Donc il y a quelque chose là qui détermine, indépendamment d'une certaine manière du consommateur, sa consommation. Alors, l'autre point, c'est que derrière ces facteurs environnementaux, la physiopathologie moderne nous a montré qu'il y avait des données biologiques solides. Et je pense qu'un domaine médical ne devient vraiment crédible que quand il y a une firme pharmaceutique qui s'y intéresse et quand il y a un gène, parce que sinon vous avez beaucoup de mal à le faire développer. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années? C'est des progrès absolument extraordinaires en biologie moléculaire de la régulation énergétique, de la régulation de la masse maigre et de la masse grasse. Alors comment illustrer l'importance des facteurs génétiques sur les effets de l'environnement et des comportements? L'expérience là, c'est la plus belle expérience qu'on a jamais faite dans le domaine de recherche en obésité, consiste à prendre des Canadiens, à les mettre trois mois dans un summer camp et de leur donner 1000 calories par jour au-dessus de leurs besoins. Et puis on regarde au bout de 3 mois quel est leur poids. Et là, vous voyez que certains ont pris 4 kilos et d'autres ont pris 14 kilos. Donc l'expérience est simple, inégalité en fonction de l'environnement. Et dans cette étude, en fait, il s'agissait d'une trentaine de Canadiens, mais de 15 paires de jumeaux homozygotes. Et la corrélation de prise de poids est absolument parfaite. Donc on voit que les effets de l'environnement et des comportements dépendent évidemment du background génétique. On est dans une génétique de prédisposition, une génétique polygénique, et je vais passer sur ces problèmes. Le système le plus impliqué est identifié, c'est celui des mélanocortines, mais je vais passer parce que je n'aurai pas le temps sinon de poursuivre. Donc, pour ce qui est des déterminants de la prise de poids, on a les comportements, l'environnement, la génétique. Et là, on est dans un système où on est tous confortables, puisque qui peut ne pas avoir en idée que l'obésité vient d'un excès d'apport et d'un défaut de dépense. Mais en réalité, plus ça va, plus on s'aperçoit que les choses sont beaucoup, beaucoup plus complexes que cela, et qu'il n'y a pas forcément que des facteurs énergétiques qui interviennent. Il y a d'autres facteurs comme les facteurs pharmacologiques, les polluants, les virus récemment identifiés, des facteurs intra-utérins et des facteurs intergénérationnels qui sont actuellement extrêmement étudiés et qui sont indépendants de facteurs énergétiques propres. Donc on a quitté la première phase et on est arrivé à la phase de stabilisation. Et je voudrais vous montrer comment se produit le processus de chronicisation. Qu'est-ce que c'est grossir ? C'est augmenter sa masse grasse. Augmenter sa masse grasse, ça veut dire que lorsque vous surchargez l'organisme, que le bilan énergétique est positif, vos adipocytes augmentent de volume. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Et il y a un système biologique qui est que, dit de la taille critique, qui est qu'à partir du moment où la cellule atteint un certain niveau, elle recrute dans son environnement une cellule qui était jusque-là latente pour devenir un préadipocyte, pour devenir un adipocyte. Et tous les mécanismes biologiques de ce recrutement ont été identifiés. Ces mécanismes impliquent des facteurs énergétiques, comportent des nutriments, mais impliquent aussi d'autres facteurs non énergétiques. Et la recherche actuelle porte essentiellement sur les facteurs qui sont impliqués dans la différenciation des adipocytes et qui ne sont pas liés à des facteurs énergétiques, viraux, polluants, etc. Le problème, c'est que les choses continuent et donc vous aviez maintenant deux adipocytes qui continuent à grossir et le problème, c'est que le phénomène n'est pas réversible. Et donc on voit qu'au fil du temps, si la pression environnementale augmente, il y a des modifications biologiques. Et ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas simplement une modification de la cellularité, mais qu'il y a une modification de structure de tout le tissu adipeux avec des mécanismes inflammatoires, des mécanismes de fibrose, une augmentation de l'angiogénèse, des phénomènes extrêmement complexes qui font que ce qui était initialement une maladie comportementale réversible devient au fil du temps une pathologie d'organes qui, au fil du temps, sera de moins en moins réversible. Et vous comprenez dans ces conditions. Et l'autre point important, c'est que ces adipocytes devenus pathologiques sécrètent des tas de substances qui créent les complications de la maladie. Et donc, vous comprenez pourquoi, à partir d'un certain stade, et surtout s'il y a des facteurs de prédisposition génétique, il devient tellement difficile de perdre du poids. Et c'est pour ça que l'obésité est une maladie chronique évolutive qui connaît, à partir d'un certain stade, un certain degré d'irréversibilité. C'est un schéma que tout le monde connaît pour le tabagisme, que tout le monde connaît pour la stéatose hépatique. Si vous prenez quelqu'un qui boit trop d'alcool, au début, ça va. Ensuite, son foie devient un foie trop riche en graisse, et puis ensuite, ça devient la cirrhose. C'est simplement ça, l'obésité. Et donc, ceci est évidemment un plaidoyer pour des interventions précoces, et vous comprenez l'ineptie du système de santé actuel qui, quel que soit le stade évolutif de la maladie, fournit toujours la même réponse, bougez plus, mangez moins. Ça n'a pas de sens. Il faut absolument qu'on arrive à différencier les attitudes thérapeutiques. Alors, est-ce que c'est une question d'adaptation ou une véritable maladie ? Je voudrais simplement soulever la question, c'est qu'il faut savoir que quand vous arrivez à ce stade-là, lorsque vous avez pris 100 kg de trop, on va prendre un exemple théorique, vous êtes passé de 70 à 170 kg, vous avez pris 100 kg, vous avez pris 70 kg de gras et 30 kg de masse maigre. Or, la dépense énergétique de l'individu est lié à sa masse maigre. Donc, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, vous avez augmenté votre dépense énergétique. Et on peut dire, sans provocation, que c'est une formidable adaptation. Parce que lorsque vous êtes dans une société où l'on vous demande de manger plus, et donc avoir à brûler plus, mais sans bouger plus, augmenter sa masse maigre à travers l'obésité est une formidable source d'adaptation. Et là, vous êtes quelqu'un de parfaitement adapté. Vous pouvez ne pas bouger plus et brûler plus simplement parce que vous avez augmenté votre carcasse. Et je pense qu'on revient à un problème de réflexion de fond qui est que le vivant et le milieu ne peuvent être dits normaux s'ils sont pris séparément, ce que disait Canguilhem. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer cette proposition que la maladie est dans certains cas un effort de la nature en l'homme pour obtenir un nouveau équilibre dans un environnement donné. Brièvement, je voudrais vous dire, ayant tracé le portrait général de l'obésité, qui est très très schématique, je suis désolé, vous dire qu'il y a des effets latéraux d'une définition quantitative et populationnelle d'une maladie, et en particulier quand il s'agit d'une situation liée au comportement et soumise à un jugement de valeur et à des références culturelles. Je voudrais vous signaler qu'on définit l'obésité par l'indice de masse corporelle, mais c'est un indice qui est de très faible valeur. Il a une très bonne valeur populationnelle, mais une très faible valeur personnelle, individuelle. Et je vais vous donner quelques exemples. Ici, vous avez le rapport entre le pourcentage de masse grasse et l'indice de masse corporelle. Donc, vous avez une corrélation parfaite. Mais si vous regardez le détail, vous pouvez voir que pour quelqu'un classé obèse, sa masse grasse peut être aussi bien à 50% qu'à 25%. On a donc un phénotypage qui est de très, très mauvaise qualité. L'autre point important, c'est qu'on a montré que, je vais simplifier, c'est que ce qui compte plus que tout, ce n'est pas le poids, mais c'est le poids acquis à l'âge adulte. Et que paradoxalement, les gens qui étaient maigres au départ, ce sont des infirmières nord-américaines, et qui ont grossi au cours de leur vie, se trouvent à plus haut risque cardiovasculaire que les infirmières qui étaient les plus fortes au départ, mais qui n'ont pas changé de poids. Et donc, vous voyez que le phénotypage doit être amélioré. Et notre aspect de phénotypage, c'est qu'on sait depuis très longtemps que c'est la graisse intra-abdominale périviscérale qui est particulièrement toxique et qu'il est à la limite plus dangereux d'avoir du ventre que d'être gros à partir de la taille, en dessous de la taille. Donc on voit que, et l'autre point, autre détail, vous voyez ici la mortalité cardiovasculaire en fonction de la corpulence. On retrouve l'augmentation de la mortalité en fonction de la corpulence. Mais si vous prenez ici cette relation chez des gens qui sont en forme physique, qui font du sport, elle n'existe plus, et vous voyez que les gens qui sont gros et en activité physique ont moins de mortalité que les maigres qui sont sédentaires. Donc on est dans des systèmes très très complexes qui dépassent largement. Et puis, alors, point suivant, on est dans une définition culturelle. Personne n'a d'état d'âme sur la définition de la glycémie pathologique ou de la tension artérielle pathologique. Mais chacun d'entre nous a une référence culturelle, sociale, psychologique sur la corpulence. Et ça, c'est une source très importante de stigmatisation et de discrimination. Je vous donner un exemple très simple lié d'un travail d'Amadieu à la Sorbonne qui regarde la convocation à l'embauche en fonction de différents paramètres. Vous avez ici des Français moyens, disons, pour faire simple, qui correspondent au portrait type idéal du recruteur. Et puis ici, vous avez une personne obèse, une personne d'origine maghrébine et une personne âgée. Et on regarde les réponses positives à des CV adressés pour des convocations d'embauche. Vous voyez le nombre de réponses positives lorsque vous êtes une personne obèse. Et ce qui est, je pense, encore plus significatif, c'est le nombre de fois où la personne répond négativement, ce qui est une forme de courtoisie, et vous voyez qu'on ne répond jamais, c'est-à-dire qu'on envoie une lettre en disant « je suis désolé, mais je ne peux pas vous prendre ». Et donc vous voyez qu'il y a là non seulement un domaine de santé physique, mais un domaine de santé psychologique et sociale de très grande importance. Et ce n'est pas donc par hasard que le journal Science avait fait un éditorial pour insister sur le fait qu'il ne fallait pas faire la guerre à l'obésité, mais pas à l'obèse. Et ça, c'est un vrai problème qui doit nous interroger pour les politiques de prévention et les messages préventifs. Cette dérive normative, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les histoires de mannequins en Espagne, etc. Et c'est quand même un seul facteur de risque où l'on demande comme objectif non seulement d'atteindre l'objectif entre guillemets de la normale, mais de le dépasser. Personne ne songerait à dire aux gens il y a un tel risque d'être diabétique que tout le monde doit être en hypoglycémie ou c'est tellement dangereux l'hypertension artérielle qu'il faut être hypotendu. Là, dans le domaine de l'obésité, vous avez une pression sociale qui s'aggrave considérablement actuellement, où sans arrêt on dit aux gens attention, l'obésité est extrêmement grave, il faut être extrêmement mince. Et donc ça aboutit à des catastrophes, à une perplexité alimentaire, à une médicalisation de l'alimentation, à une judiciarisation de l'alimentation. Et vous avez vu les procès qui sont actuellement développés contre les firmes d'agroalimentaire aux États-Unis. Alors j'en arrive à la question qui m'était posée, mais je n'en ai plus pour très longtemps, ne vous inquiétez pas. Quels sont les enjeux de politique publique ? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, le premier enjeu, c'est de tenir compte de l'histoire naturelle et de cesser d'avoir une vue simpliste de l'obésité. C'est un problème d'une très grande complexité, à la fois en termes de déterminants et de conséquences. C'est un domaine où il y a une très grande hétérogénéité phénotypique, une grande hétérogénéité de déterminants, et donc il faut avoir une attitude extrêmement différenciée en fonction du stade évolutif de la maladie et des individus. Alors finalement, pourquoi dans une population il y a un tel pourcentage d'obèses ? Il y a un premier niveau, c'est le niveau des individus. On a vu la dépense énergétique et l'alimentation. Le deuxième niveau, c'est la niche écologique, le micro-environnement. Et là vont intervenir des choses comme les loisirs, le travail, le chauffage, les habitudes familiales, etc. Et puis vous avez le niveau supérieur qui est le niveau local, avec la politique des transports, les affaires de sécurité qui ne sont pas minces pour des jeunes, par exemple, dans les quartiers difficiles, qui n'osent, dont les familles n'osent pas laisser les jeunes aller dans les terrains de sport, l'industrie agroalimentaire, bien entendu. Vous avez le niveau national et régional, qui est la politique d'urbanisation, la politique de santé et de protection sociale, l'éducation, évidemment. Et puis, vous avez le niveau, et on quitte là, à ce moment-là, la perspective nationale, et on arrive à la perspective qui a été évoquée tout au long de la journée de la globalisation et de la mondialisation. Et donc, une politique de prévention de l'obésité doit tenir compte de l'ensemble de ces niveaux, et c'est ce qui en fait toute la difficulté. Et je pense qu'on a discuté de ça toute la journée, je pense qu'il y a une très grande difficulté dans la question de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective, parce qu'au fond, quand on regarde l'individu, il a à lutter en permanence, quels que soient les bons messages qu'on va lui adresser, il a à lutter en permanence devant à des forces biologiques qui s'aggravent au fil du temps et qu'il ne faut pas négliger, et il doit lutter en permanence vis-à-vis de l'environnement et des conditions environnementales qui se présentent à lui. Et souvent, je me dis que moi, l'image que j'ai souvent des personnes qui sortent de notre service, de notre centre d'éducation thérapeutique, c'est l'image d'un asthmatique qu'on enverrait respirer un pot d'échappement en sortant d'une consultation de pneumologie. C'est-à-dire que sans arrêt, on dispense des messages qui ne sont pas applicables. Et ensuite, on culpabilise l'individu sur des questions qui lui échappent dans une certaine mesure. Et je pense que ça, c'est une problématique majeure qu'on a discuté quand on discute de santé publique. Et puis enfin, si vous faites, comme l'a fait Philippe James, le rapport entre l'influence et l'intérêt des différents partenaires de la prévention de l'obésité, il y a une relation qui n'est pas du tout positive. Évidemment, les parents, les enfants, les associations, les enseignants, les scientifiques manifestent un très grand intérêt et ont très peu d'influence. L'industrie agroalimentaire, la distribution, les communicants, la politique agricole, les médias ont une très grande influence, mais manifestent un intérêt relativement modeste à l'obésité, un intérêt énorme à l'idéal minceur, etc., mais sur la pathologie elle-même, un intérêt modeste. Et donc, on a à faire face à ces situations. Donc, ma conclusion, c'est que l'obésité est une maladie chronique évolutive liée au mode de vie et à l'environnement, ça, on est, je pense, tous d'accord, et que sa prévention est donc un enjeu communautaire. Je pense que le thème communautaire est important à prendre en considération. Sa prévention ne peut être que multifocale, multipartenariable et durable, et que les enjeux pour nous, c'est d'atteindre les populations cibles, parce qu'au fond, je vous ai montré qu'il y avait des grandes différences dans les sous-populations, et que généralement, les messages sont adressés aux populations qui en ont le moins besoin. La deuxième difficulté, c'est de délivrer des messages simples sur une situation aussi complexe, et je ne sais pas où est la solution. Limiter les effets latéraux que j'ai évoqués, et réduire les obstacles économiques et sociaux. J'ai dit réduire parce qu'il ne faut pas rêver, mais il faut essayer de réduire de façon partenariale la pression sociale. Et donc, je vous laisse avec quelques questions que je me pose. C'est quel est le bon modèle ? Est-ce qu'il faut une prévention spécifique, c'est-à-dire centrée sur l'obésité, en disant l'obésité est un grave problème, et donc chaque individu dans nos pays doit prendre en compte réaliser la gravité de ce problème et se retroussé les manches lui-même et se mettre au boulot. Ou est-ce qu'il faut avoir, plutôt que de la prévention de maladies, une perspective de promotion de la santé? Quand on considère que les facteurs qui favorisent l'obésité sont exactement les mêmes que ceux qui favorisent le cancer, les maladies cardiovasculaires et les conséquences du vieillissement, je pense qu'il faut qu'on se pose la question de savoir s'il faut lancer des campagnes de prévention de pathologies ou des campagnes de prévention de promotion de la santé. Et puis, il y a cette question qui est débattue dans les congrès qui s'intéressent à l'obésité. Sur quoi faut-il miser? Évidemment, ce n'est pas exclusif l'un de l'autre. Est-ce qu'il faut miser sur une population sans effort, entre guillemets, hein, prenez pas les choses au pied de la lettre, c'est-à-dire qui ne sollicite pas l'individu, mais qui lui permet de trouver des solutions facilement? Pistes cyclables, terrains de sport gratuits pour les enfants. Vous savez que, à titre d'exemple, on a calculé le nombre de minutes consacrées à l'activité sportive au cours d'une heure de gymnastique au lycée. C'est 5 minutes. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour se déshabiller, pour discuter, pour aller au terrain de sport, etc. Donc des choses comme ça assez simples. Donc est-ce qu'il faut favoriser une prévention sans effort ou est-ce qu'il faut tout centrer sur l'individu? Personnellement, j'opte plutôt au fur et à mesure de mes réflexions vers celle-là. Et puis, quelle est la référence? Et j'en finirai avec ça. La difficulté est la suivante. C'est que sans arrêt, on se réfère, pour ce qui est par exemple du modèle alimentaire, au passé. Et on dit, au fond, dans le temps, il n'y avait pas d'obèses, donc la nourriture de nos grands-mères, c'est la nourriture de référence. Et on essaye d'appliquer un système de référence du passé qui est inapplicable dans le présent. Et en fait, la seule question, c'est celle de l'adaptation. Comment allons-nous faire évoluer nos comportements pour nous adapter aux évolutions de la société? L'autre alternative, ce serait simplement de se dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, être obèse, c'est une formidable adaptation, et au fond, vive la médecine réparative, et on fera des greffes de cœur, on fera des prothèses de hanches, on traitera le diabète de tous les gens qui seront devenus obèses. Ça, c'est une autre alternative. Je vous remercie de votre attention.